Bonjour à toutes, bonjour à tous, votre émission de sport est de retour cette semaine avec de bonnes nouvelles dans les bagages. Au menu, aujourd'hui, le foot et le TFC qui accrochent tout de même sa deuxième victoire à l'extérieur face aux Rémois, ça c'est quand même pas mal. Des Rémois, on le rappelle, en pleine conquête d'une place qualificative pour l'Europe. On ira aussi voyager un peu en Afrique quand même, et plus précisément en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations qui touche à sa fin. On a désormais les 4 demi-finalistes de la compétition, on y reviendra. On aura aussi le stade, bien évidemment, qui ne nous déçoit jamais, face
au bleu et blanc de l'aviron bâillonné.
Une victoire 46-26 qui fait plaisir. Le coup de tonnerre en Formule 1 aussi, on en parle. L'un des plus gros, voire le plus gros transfert de la catégorie reine du sport, Lewis Hamilton, chez Ferrari, c'est signé. Personnellement, j'ai encore du mal à y croire. On a aussi le visage du judo français de ces 15 dernières années. Teddy Riner, champion du monde pour la 11e fois, c'est complètement fou. Et pour finir, on reviendra sur le hand et la victoire de nos Toulousains du Phoenix en Coupe de France de handball face à Rennes. Tout ça, on en parle tout de suite sur temps additionnel, toujours accompagné d'Alexandre pour agrémenter les émissions. Comment ça va, Alex ?
Bonjour Raphaël, ça fait plaisir de venir, d'intervenir avec toi. On a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, ça c'est sûr.
Mais avant tout, premier sujet de l'émission, la victoire du TFC. Victoire avec la manière dans le jeu face à une équipe de Reims très portée vers l'avant et donc qui laisse plus d'espace, moins de difficultés pour nous violer dans les 30 derniers mètres, c'est ce qui pêchait. Le premier but, on l'a vu, sur corner, dès la 30e minute de Christian
Mawissa,
le pitchoun en forme des violets. Le deuxième est signé par la recrue hivernale qui a fait ses preuves, Xavi
Babika.
Et le serial buteur d'Alinga enfonce le clou sur pénalty juste avant la mi-temps. Le numéro 9 du TFC, j'ai nommé Thijs
d'Alinga.
Bon, le score malgré ça est assez serré, mais la victoire est là. Merci KCRS. La victoire qui relancera le TEF ou juste une victoire inespérée dans une phase de doute. De mon côté, j'attends encore des preuves parce que la victoire est bonne dans l'attitude. Mais je pense pas être le seul à être dubitatif vu la fin de match à laquelle on a assisté du côté de Reims.
Et moi, honnêtement, je m'attendais pas à voir un TFC dominant, surtout en première période. Je ne peux pas passer à côté de la performance de notre pitchoun Mawissa. On a vu qu'il joue beaucoup plus souvent avec l'équipe pro et il a même été buteur dans ce match contre Reims, et c'est pas rien, à tout juste 18 ans. Guillaume Rest, rien à dire. Même si à un moment donné, la défense s'est relâchée en deuxième période et Reims en a profité. Et comme t'as dit, merci à KCRS pour le sauvetage sur la ligne. Mais pour finir, j'ai bien aimé la performance de la nouvelle recrue, Xavi Babika. Beaucoup ne le connaissent pas, c'est normal, il vient d'arriver au club. Mais vous verrez très vite qu'il est bon, puisque déjà il a joué un rôle de faux numéro 9 dans ce match. Et je retiens comme action son but, qui est une frappe enroulée du pied gauche, proche de la surface de réparation. Je sens qu'il va apporter du bien et de la motivation au groupe. En tout cas, on espère, Raphaël, qu'il va continuer de rééditer ce genre de performance pour les prochains matchs à venir.
C'est exactement ça. On attendait exactement ça de Babika, le numéro 9 qui va venir tuer l'adversaire quand il le faut. La frappe, elle était parfaite. On a tous voulu qu'il fasse exactement cette frappe. Il a fait exactement cette frappe. Donc, c'est parfait. Un point classement. D'abord, juste avant de partir sur le prochain sujet, Toulouse qui passe 12e devant Nantes, devant Montpellier, les deux rivaux. Et ça, ça fait plaisir. Reims est stoppé dans sa course à l'Europe, malgré un match nul juste avant. Et bien stoppé, qui reste 7e. Toulouse revient dans le jeu. On fera le point dans quelques semaines pour voir si la dynamique a vraiment commencé ce jour-là ou alors c'était un coup d'éclat, comme on l'a vu à Metz. Affaire à suivre. On passe maintenant à la CAN sur les demi-finales de la Coupe d'Afrique, donc qui se déroule en Côte d'Ivoire pour cette édition 2024, une édition D'ailleurs, pleine de surprises avec quasiment tous les favoris éliminés assez tôt dans la compétition, comme le Maroc par exemple. On rappelle hein, le Maroc qui avait éliminé l'Espagne et le Portugal lors de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est assez étonnant de les voir éliminés si tôt dans la compétition. Ce qui donne donc des demi-finales très ouvertes, on va pas se mentir. De mon côté, j'espère une épopée ivoirienne à domicile. Ça serait quand même la belle histoire et une fête incroyable pour les éléphants. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alex ?
Comme t'as dit, Raphaël, ces demi-finales sont des matchs d'outsiders. Le Maroc est sorti. D'ailleurs, c'est, je trouve ça justement assez choquant quand même de voir le Maroc sortir, qui est pourtant favorite. Mais oui, la Côte d'Ivoire est une équipe qui, au départ, n'était pas du tout prête hein, pour aller en demi-finale de la CAN. On l'a clairement vu contre la Guinée équatoriale. Ils ont perdu à domicile sur un score de 4-0. Et les retrouver en demi-finale, moi je dis chapeau. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont viré Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas exactement qui l'ont remplacé, mais ça a bien fonctionné. Et Nigeria-Afrique du Sud, alors là, l'affiche complètement inattendue des Sud-Africains, puisque je pensais qu'ils étaient plutôt bons que au rugby qu'au foot, mais ils ont sorti les Marocains. Et c'est vrai que c'est un exploit pour eux, mais bon, ils vont affronter un Nigeria d'Osimhen et de Chukwueze, pour ceux qui connaissent. Ça va être assez compliqué. Et pour le Congo, parce que là, on va quand même parler de Côte d'Ivoire-Congo, qui est une affiche un peu plus équilibrée entre les deux nations. Il y aura du grand jeu. Ça, c'est sûr, hein, Raphaël.
Je vais revenir aussi sur le point du changement d'entraîneur. C'est vrai que c'est assez rare. Quand même, on peut le souligner, de changer d'entraîneur en pleine compétition internationale aussi importante comme ça. D'habitude, ça se fait pendant les matchs amicaux ou les choses comme ça. Mais changer d'entraîneur et que ça marche directement, j'ai pas de souvenir précis où ça a été déjà fait et ça a marché. Donc j'attends de voir la suite. Le parcours de la Côte d'Ivoire, on peut aussi peut-être le comparer à celui du Portugal en 2016, qui avait fini meilleur troisième, on le rappelle. Et au fur et à mesure des matchs, s'est révélé et a réussi à décrocher le titre de champion. Donc on peut espérer un parcours similaire pour la Côte d'Ivoire. Et encore une fois, en tout cas, affaire à suivre. On vous tiendra au courant les prochaines semaines parce que les demi-finales et la finale arrivent très prochainement. Un mot de rugby, ça devient une habitude maintenant. La victoire du Stade face à Bayonne dans l'enceinte d'Ernest Vallon. La présence d'Antoine Dupont, magnifique, qui ne participe pas au tournoi destination dans cette période. On le voit, fait clairement la différence. Le maestro toulousain a donc permis à cette équipe de s'envoler dans ce match grâce à ses coups d'éclat. Score final 46-26.
Et comment ne pas parler de Antoine Dupont et de sa performance XXL contre l'Aviron bayonnais ? Il a été littéralement la tour de contrôle du Stade toulousain. Les plus belles actions que j'ai retenues de Dupont dans ce match, c'est quand il réceptionne la passe de Alexander Roumat et marque un essai après une percée où les arrêts bayonnais n'ont rien vu venir. Et la plus marquante dans ce match, pour moi, c'est quand il parvient à contrer à dégagement bayonnais et de suite après fait une schistera à Pitaaki proche de l'embut de bayonnais pour qu'il puisse marquer l'essai. Cette action est exceptionnelle de Dupont. Peut-être que j'en ai oublié un, mais il y en a un autre aussi, je m'en rappelle. C'était quand il a fait un centre, mais on va dire, il était au milieu de terrain, il a fait un centre sur un joueur qui était complètement proche de l'embut de bayonnais, démarqué. Action magistrale hein, d'Antoine Dupont.
En tout cas, moi, ce contre m'a rappelé de mauvais souvenirs hein, pour les Bleus, on va pas se le rappeler. Les Bleus, d'ailleurs, parlons des fêtes aussi quand même, on peut pas y échapper. Les Irlandais, tout simplement, trop forts techniquement, physiquement, face à nos Bleus désemparés et méconnaissables. On n'est pas habitué chez les hommes de Fabien Galthié à deux défaites d'affilée, après celle donc durant l'écart et ce fameux contre sud-africain. 17-38, le score reflète bien la physionomie du match avec une supériorité des Irlandais, certes, mais il y a aussi ce carton rouge à la 30e minute qui ne nous aide pas. Reste plus qu'à apprendre des erreurs et à se relever après ce revers à domicile.
Ah, tout à fait, Raphaël. J'ai vu que le 15 de France a moins bien joué que d'habitude. Hein. On a très vite ressenti un manque d'idées de leur part. Ils n'ont pas réussi à trouver des failles face à une Irlande tenace. Hein. Mais une partie des fans vont voir cette défaite comme celle des pires années du 15. Mais il faut savoir quand même qu'on a tenu tête en jouant en infériorité numérique contre l'Irlande. C'est pas rien quand même, hein. C'est l'Irlande en face. Le score aurait pu être beaucoup plus sévère. Bref, il reste encore d'autres matchs à jouer dans ce tournoi destination. On verra bien ce que ça donne. Et si l'absence d'Antoine chez le 15 n'est qu'un petit détail.
Pour préciser juste, la victoire destination, elle n'est pas encore totalement perdue. Même si cette équipe d'Irlande a l'air, on va pas se mentir, imbattable. Il y a encore de l'espoir de victoire, on le rappelle, sans Dupont, sans Ntamack, les deux piliers qui ont fait la victoire en 2021, on le rappelle. Donc prochain match en Écosse, samedi 15h15, on en reparlera dans la prochaine émission.
Puis beaucoup aussi critiquent Lucu, il faut savoir que c'était le remplaçant de Antoine Dupont, mais il faut le comprendre aussi qu'il avait une grosse pression, je veux dire, remplacer Antoine Dupont dans un match crucial contre l'Irlande, t'attends pas à ce que tu fasses le plus beau match de ta carrière.
C'est sûr que remplacer le capitaine, remplacer l'âme d'un groupe, c'est assez compliqué. Le changement de capitaine aussi a été crucial, donc on verra comment le groupe se porte, comment le groupe se crée sans le meneur de jeu français. Affaire à suivre donc. Un mot aussi de Formule 1, désormais, et comme annoncé précédemment, la bombe totale en Formule 1. C'était une rumeur d'internet depuis quelques années déjà, on voyait passer sans trop y croire, mais le 1er février fut le jour où tout s'est emballé sur les réseaux sociaux. Accrochez vos ceintures, Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025, c'est fait, c'est officiel. Il signe donc pour 2 ans chez les Rouges, avec une de plus en option. Le plus gros transfert de l'ère moderne, sans aucun doute, on va pas se mentir. Que le scénario où Lewis remporte son 8e titre chez Ferrari, ça fait rêver bon nombre de fans de F1, moi comme Alexandre, on va pas se mentir. Ça nous laisse l'opportunité aussi de nous poser quand même pas mal de questions. Quel successeur pour Lewis chez Mercedes? Parce que on sait qu'il va laisser un énorme trou. Tu remplaces pas quelqu'un qui a gagné 6 titres de champion du monde d'un jour à l'autre. Le jeu des chaises musicales aussi, c'est-à-dire que Lewis va laisser une place vacante chez Mercedes, qui va prendre cette place vacante, qui elle-même laissera une place vacante. Donc, ça sera très intéressant. Carlos Sainz aussi vers un futur chez Audi, parce qu'on sait que l'écurie Audi arrivera officiellement en Formule 1 en 2026. Donc, Carlos Sainz, l'avenir en 2025 est assez flou. Il rejoindra peut-être l'écurie Audi en 2026. Et la concurrence aussi, évidemment, à venir entre le roi de ce sport des temps modernes, et le petit prince de Ferrari, Charles Leclerc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre?
Et en effet, Raphaël, c'était complètement inattendu de voir l'officialisation de Lewis Hamilton chez Ferrari, parce que toi et moi, qui sommes fans de la Scuderia, on connaît les rumeurs de potentielles arrivées de pilotes importants, mais qui n'aboutissent souvent jamais. Au vu des dernières saisons de Ferrari, marquées par des problèmes techniques et stratégiques, la rumeur comme quoi Hamilton allait nous rejoindre n'était pas sérieuse. Même toi, tu l'as vu, Raphaël.
Oui, non, elle n'était pas sérieuse, surtout que Carlos Sainz, malgré quelques controverses au niveau sportif, t'es le seul, on le rappelle la saison dernière, à avoir ramené une victoire autre que Red Bull durant le championnat. Donc de mon côté, je pensais que son avenir était assez calme du côté de chez Ferrari jusqu'à la fameuse annonce de Lewis Hamilton qui quitte Mercedes. Un mot à dire peut-être sur Mercedes du coup?
Ah oui, il faut dire que Mercedes, c'est pas l'équipe du dimanche. C'est l'écurie qui a freiné Red Bull en 2014 pour s'emparer du titre du meilleur constructeur automobile. Et tu as aussi Toto Wolff, le directeur de Mercedes, qui a permis à cette écurie de devenir l'équipe numéro 1 de la F1 des années 2010. Et on voit surtout que Lewis Hamilton représente vraiment l'ADN de Mercedes. Parce qu'en 11 ans, il a raflé 6 de ses 7 titres de champion du monde chez les Flèches d'Argent. Son unique titre hors Mercedes est remporté avec McLaren en 2008.
Et lors de son sacre en 2008, il était quand même chez Mercedes au niveau du motoriste, donc il doit tout à cette équipe depuis qu'il est arrivé en Formule 1. On a peut-être une piste de pourquoi il a rejoint Ferrari. On se rappelle en Formule 2, quand Lewis courait en Formule 2, Frédéric Vasseur, l'actuel team principal de Ferrari, était le manager de Lewis Hamilton, donc un lien assez fort qui les unit, et c'était peut-être donc une pièce importante dans le choix d'avenir de Lewis Hamilton, qui, on va pas se mentir, sera peut-être sa dernière équipe, sa dernière écurie, un dernier défi pour aller remporter son 8e titre et enfin dépasser Michael Schumacher. En tout cas, je sais pas toi Alex, mais moi j'ai hâte que cette saison 2024 elle passe très vite, parce que la saison 2025, la dernière sous cette réglementation, on le rappelle, va être très très intéressante. Hamilton chez Ferrari, on va voir aussi tous les changements d'écurie, des pilotes, l'arrivée de Audi l'année d'après, ça va être très très intéressant.
Ah oui, et la saison 2025, ça va être du lourd, du très très lourd. Mais moi, j'y crois pas comme quoi Hamilton, ça va être sa dernière équipe, puisque bon, il a 40 ans, certes, mais t'en as d'autres comme Kimi Raikkonen à l'époque. Je crois qu'il avait 40 ans passé, il était encore en train de courir avec Sauber Alpha. Donc je sais pas si c'est une question d'âge. Bon, j'espère en tout cas qu'Hamilton va rester le plus longtemps possible chez Ferrari. À moi, j'espère, honnêtement.
En tout cas, ce serait beau qu'il parte en roi sous son 8e titre. Imaginez le scénario, Lewis Hamilton qui gagne son 8e titre et qui part à la retraite juste après. C'est la fin parfaite. les championnats du monde de judo à 34 ans. Teddy Riner, champion du monde pour la 11e fois dans la catégorie des plus de 100 kilos. C'est fou quand même. En battant le russe Inal Tasoev dans les prolongations, il s'impose encore une fois comme une légende de sa catégorie et de ce sport. On peut dire que c'est très bon augure pour les chances de médaille pour les JO de cet été.
On attend impatiemment de le voir s'illustrer à la maison et son 11e titre mondial montre encore une fois sa suprématie. Pourtant, il a eu des difficultés à s'imposer en demi-finale, hein, notamment contre Alisher Yupusov, actuel 3e mondial et médaillé de bronze au Mondiaux 2023. Teddy Riner était, je sais pas si tu l'as vu, hein, était virtuellement éliminé avant que le Ippon Ouzbek ne soit rétrogradé en simple point. Waza Harris, ça s'appelle. Donc après l'arbitrage vidéo, finalement, le Français mené a fini par s'imposer par Ippon. Riner s'est fait peur.
C'est là où on voit toute l'expérience de l'homme aux 11 titres mondiaux, le mental, l'expérience, savoir comment affaiblir son adversaire. C'est tout Teddy Riner. On est très content. Hâte d'être à cet aidé. Le hand, la Coupe de France, avec le petit exploit du Phoenix qui bat difficilement Rennes 28 à 25 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Le Phoenix qui rejoint Nantes, qui rejoint Montpellier, qui rejoint le PSG. Trois très très gros poissons du championnat français. Futur tirage au sort des demi-finales. Affaire à suivre donc, on vous tiendra au courant.
Ah, c'est vrai que le Phoenix, hein, impressionnant quand même, impressionnant parcours du Phoenix. Mais pour moi, en termes de palmarès, c'est une équipe modeste. Hein. En France comme en Europe, il faut savoir qu'on a gagné qu'une seule Coupe de France qui date de 98. Ça remonte à loin cette affaire-là. Donc moi, je vois cette qualif en demi-finale comme une opportunité au Phoenix de renaître de ses cendres et espérer un titre cette année parce qu'on sait que c'est mort pour le championnat. Nantes et PSG sont trop hauts pour Toulouse. Mais bon, j'aimerais voir en demi un match Phoenix-Montpellier puisque nos Toulousains les ont battus sur le score de 33-29 et que Montpellier sur le classement n'est pas trop loin du Phoenix et c'est un peu une même équipe du gabarit même si les palmarès des deux équipes n'ont rien à voir en commun.
On peut espérer un parcours à la Toulouse FC comme l'année dernière, un outsider qui, sur lequel personne n'avait parié gagne la Coupe de France. Bon, cette fois-ci c'est du handball, mais on peut espérer un parcours similaire pour notre équipe toulousaine. En tout cas, merci Alexandre de tes interventions. C'était la troisième émission de temps additionnel. Merci à toute l'équipe de Radio Occitanie. Merci encore une fois Alexandre de tes interventions très pertinentes.
Merci Raphaël et merci à toute l'équipe de Radio Esprit Occitanie. C'était un vrai plaisir d'intervenir et j'espère qu'on se retrouvera très vite.
En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Tactus Sport. C'était Raph et Alex.